Comme un cheveu sur la soupe. Je pense que vous connaissez tous cette expression, ce dit-on, ce langage assez imagé. Comme vous savez, cette expression, elle est utilisée pour désigner l'arrivée d'une personne ou d'un événement qui n'est pas attendu. Et surtout, qui arrive inopportunément et qui dérange. Et c'est vrai que trouver des cheveux dans la soupe, ça peut couper l'appétit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il n'y a rien de plus inconfortable que d'arriver à un endroit et de se rendre compte qu'on n'est pas souhaité. Non seulement pas attendu, mais pas souhaité. D'ailleurs, lorsqu'on n'est pas invité quelque part, il vaut mieux, avant de partir, prévenir les gens que l'on veut visiter de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. On peut se trouver dans des situations qui mettent mal à l'aise aussi bien ceux qui sont visiteurs que ceux qui sont visités. Et puis même si on apprécie toujours la visite des gens qu'on aime, nous ne sommes pas toujours en mesure de bien les recevoir. Il m'est arrivé de passer à l'improviste chez mon frère de Trévenans, et en même temps que j'arrivais chez lui, là-bas, je recevais un SMS sur mon portable qui me disait « Je suis devant chez toi, où est-ce que tu es ?» Nous pensions, nous avions tous les deux envie de nous rencontrer, nous pensions tous les deux avoir fait tout ce qu'il fallait pour ça, et eh bien c'était un échec. Pour pouvoir bien accueillir, il vaut mieux se préparer, et en tout cas il vaut mieux être présent. Alors ce sont ces deux aspects de la rencontre que je voudrais aborder ce matin. Celui du visiteur et celui du visité. Être accueilli et accueillir. Mais avec un partenaire bien particulier. Lorsqu'on est chrétien, bien sûr, on cultive la proximité avec Dieu. On le fait par la prière, par la lecture biblique, par la rencontre avec d'autres chrétiens. Et c'est essentiellement pour apprendre, pour s'instruire de ce que Dieu veut pour nous, mais aussi, et souvent, surtout, pour demander à Dieu notre pain quotidien, son aide pour nos journées, sa bénédiction sur nos vies et sur la vie de nos proches, la guérison, bien sûr, de nos corps, l'apaisement de nos âmes, et pourquoi pas, la paix dans le monde, la clémence pour le climat, et surtout, évidemment, le pardon de nos péchés. Autrement dit, nous sommes dans l'attitude du quémandeur. Nous nous approchons de Dieu pour le solliciter, voire même quelquefois pour revendiquer ce qui nous est dû. Lorsque on lit la Bible et que l'on cherche le fil rouge, l'élément prépondérant du rapport que Dieu cherche à avoir avec l'homme, il me semble que c'est assez simple. Dans la Genèse, on voit que Dieu crée tout un environnement pour que l'homme soit bien, pour qu'il soit installé avec tout ce qu'il lui faut, sans qu'il ait besoin de réclamer quoi que ce soit. Il met à sa disposition tout ce dont l'homme a besoin. Adam et Ève n'ont pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Dieu a déjà tout préparé ce dont ils ont besoin. Pourtant, quand Adam et Ève choisissent de s'éloigner de Dieu en écoutant le conseil de Satan, alors Dieu parcourt le jardin et les cherche et les appelle. Et c'est l'homme qui se cache. Plus tard, dans Genèse 5, au chapitre 5, verset 24, on lit Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Tous les hommes à cette époque-là vivent plus de 8 siècles, et quand un homme cherche à marcher avec Dieu, eh bien lui ne vit que 365 années, que on peut dire que 365 années sur terre, et Dieu le prend auprès de lui. Enoch aimait la présence de Dieu, mais Dieu aimait la présence d'Enoch, et Dieu le prend auprès de lui. Et c'est le premier texte biblique qui nous parle de l'éternité avec Dieu. Dieu le prit auprès de lui. Plus tard, quand Dieu a mandaté Moïse pour conduire les Hébreux jusqu'en terre promise, on lit dans Exode 24, versets 1 à 8, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. » Donc, j'ai sauté l'espace entre verset 1 et verset 8. Dieu convoque tous les leaders d'Israël, non pas pour leur donner les clés de la survie dans le désert, non pas pour leur expliquer la stratégie pour conquérir Canaan, mais les plans détaillés d'un lieu destiné à la présence de Dieu au milieu d'eux. Dieu veut être au milieu de son peuple, et c'est ce qu'il y a de plus important. On voit dans ces textes que la volonté de Dieu de vivre avec ceux qui le prennent comme leur Dieu était vraie déjà pour Enoch, bien avant la naissance d'Abraham, qu'elle était vraie aussi pour les Hébreux avec l'alliance de Dieu au Sinaï, mais qu'elle est vraie aussi pour nous quand Jésus lui-même dit « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Jean 14, versets 1 à 3. C'est bien cela qui transparaît tout au long des récits bibliques, la volonté de Dieu de se tenir auprès des hommes. Dieu se plaît dans la présence de ceux qu'il aime. C'est valable pour les disciples, puisque je viens de vous lire un texte où Jésus leur dit, mais c'est aussi valable pour nous. Et Jésus se plaît à le répéter dans Jean 17, au verset 20, à 24. Jésus dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Et plus loin, au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Et on peut même dire que dans les moments les plus difficiles que Jésus a vécu sur terre, lors du dernier repas de Jésus, juste avant d'être crucifié, Jésus exprime ce désir de proximité avec ses disciples quand il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » C'est dans Luc chapitre 22 au verset 15. Quoi de plus significatif, quelle meilleure preuve d'amour que de vouloir passer les moments d'épreuve avec ses disciples. Il n'y a pas de moment plus intime que de partager les moments où l'on est dans la souffrance. Jésus avait déjà exprimé plusieurs fois cette volonté de se tenir auprès des siens. Et d'ailleurs, ça a été mentionné dans les prières tout à l'heure. On lit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Le Dieu créateur, le Dieu sauveur se plaît en notre présence. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Lorsque j'étais en entreprise, oui, parce qu'avant d'être en retraite, je travaillais quand même, hein, et qu'il y avait un pot offert par la direction, eh bien, nous nous amusions beaucoup avec un collègue de voir certains employés chercher à se trouver le plus proche possible du PDG. Alors, ils utilisaient tous les stratagèmes pour se trouver sur son chemin et pour avoir l'occasion de lui adresser la parole. Et on pouvait lire la satisfaction sur leur visage lorsqu'ils arrivaient à capter son attention. Eh bien là, il ne s'agit pas du pouvoir illusoire d'un PDG quelconque, mais de Dieu lui-même, le Créateur, le Sauveur, et en plus, nous n'avons pas besoin d'attirer son attention, c'est lui qui s'offre à nous, et c'est lui qui veut passer du temps avec nous. Pas besoin de stratagème, il vient lui-même jusqu'à nous. Et pour répondre à tous nos besoins, nous ne sommes pas dans la situation de celui qui fait la queue à la boulangerie en souhaitant qu'il y ait encore du pain quand ce sera notre tour. Il y a du pain pour tout le monde avec lui. On peut se souvenir de ce que le Père dit au fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole du fils prodigue ? Le Père, quand le fils aîné est fâché de voir l'accueil du fils qui revient, du fils qui a dilapidé tous ses biens, eh bien, le Père dit au fils aîné, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi. Tous mes biens sont à toi. » Cette phrase, elle est aussi pour nous. Dieu est constamment avec nous et tous ses biens sont à nous. Dieu désire être avec nous, partager avec nous tout, et il dit qu'il veut tout partager avec nous. Vous connaissez tous cette phrase dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Dieu n'enfonce pas la porte. Dieu se tient à la porte et frappe. Il est avec nous si nous ouvrons notre porte. Dieu désire partager avec nous notre maison, notre table, notre repas. Dieu, on l'a vu, nous accueille de la meilleure des manières, mais est-ce qu'il est le bienvenu chez nous? Les hommes ont créé des emplacements où ils situent Dieu, des temples, des lieux de pèlerinage, des endroits où Dieu s'est déjà révélé. En quelque sorte, ils se créent des espèces de fenêtres vers le ciel, des endroits privilégiés où rencontrer Dieu. Déjà Jacob, après sa vision de l'échelle, vous vous souvenez, il avait mis une pierre pour marquer l'endroit. Et il l'a appelé Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 28, verset 16. Il cantonnait Dieu à l'endroit où il l'avait rencontré. Pourtant, plus tard, Salomon, dans sa sagesse, après avoir bâti le temple, il a dit, « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ?» C'est dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Oui, Salomon avait bâti un temple où on pouvait rencontrer Dieu, mais il était tout à fait conscient que Dieu n'était pas dans ce temple spécifiquement. Situer Dieu à un endroit n'est pas si innocent que ça. En fait, L'homme préfère un Dieu cantonné dans un temple. De cette manière, il peut aller le voir de temps en temps, quand il a besoin, quand il le juge utile, comme certaines personnes vont voir un vieil oncle fortuné pour avoir un peu d'argent de poche. Un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est peut-être un petit peu encombrant. C'est en tout cas encombrant si notre relation avec lui n'est pas une relation d'amour. Si c'est une relation opportuniste, à l'instar d'Adam et d'Ève, lorsqu'ils ont désobéi, eh bien, nous pouvons aussi avoir envie de nous cacher. Ce Dieu, présent aussi bien sur notre lieu de travail que dans notre chambre à coucher, eh bien, il en sait un peu trop sur nous, peut-être. Comment supporter ce Dieu qui, au-delà de nos actions, connaît nos motivations et même nos pensées? Comment supporter que quelqu'un connaisse nos pensées si nous n'avons pas choisi de l'aimer? Pourtant, c'est bien en nous que Dieu veut demeurer. Les évangiles et les épîtres nous le répètent. On peut le lire dans Jean 14, dans Jean 15, dans 1 Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 6. Dieu veut faire sa demeure en nous. Ce n'est pas dans un temple de pierre, et surtout pas seulement où et quand nous le désirons. Cette proximité avec Dieu, qui est un privilège extraordinaire, eh bien, les Hébreux l'avaient refusé. Devant le mont Sinaï, effrayés d'avoir entendu la voix de Dieu, les Hébreux voulaient que ce soit Moïse qui soit leur intermédiaire. Ils voulaient que quelqu'un de bienveillant, de compréhensif, de la même nature qu'eux, soit un intermédiaire avec Dieu. Ainsi, ils pourraient l'écouter ou le contester à leur guise. C'est ce qu'on peut lire dans Deutéronome chapitre 5, les versets 23 à 27. Un peu comme les préposés de la poste, de la banque ou de quelques guichets qui sont là un petit peu pour servir de défouloir quand on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir. N'est-ce pas, Marcel? Dieu, en demandant la création du tabernacle, ce temple portatif destiné à être au centre du camp des Hébreux, a montré qu'il voulait accompagner Israël partout. Mais ça engageait la volonté d'Israël, parce que cette tente volumineuse, il fallait la monter, la démonter, la transporter pour qu'elle puisse être au milieu du peuple. On voit d'ailleurs, en lisant le livre des Juges, que très vite, les Hébreux se sont lassés de monter et de démonter la tente. Après, ils se contentaient d'emmener l'Arche de l'Alliance. Ce n'était pas du tout ce que Dieu avait demandé. D'ailleurs, ça a permis aux Philistins de la kidnapper, cette arche, de la confisquer. Quand plus tard, David décide de construire un temple, Dieu l'en dissuade. Il annonce que c'est un de ses descendants, l'homme de la paix, qui sera pour Dieu un fils et pour qui Dieu sera un père qui construira le vrai temple. C'est donc par Christ que cette prophétie s'est réellement réalisée. C'est seulement avec lui que tous les symboles qui avaient été créés dans le désert par Moïse ont définitivement été remplacés. À commencer par le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe. Vous savez que Caïphe a déchiré sa robe qui était le symbole de sa fonction. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu 26, 65. Pourtant, elle avait été faite avec une bordure pour qu'elle soit indéchirable. C'est ce qui nous est dit dans le livre d'Exode au chapitre 28. Vous savez aussi que la tunique de Jésus, elle, n'a pas été déchirée. Quand les soldats se sont partagés ses vêtements, Non, pas déchirer sa tunique, dans Jean 19, verset 23. Et c'est Jésus qui est devenu le souverain sacrificateur définitif. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux, au chapitre 6, verset 20. Et ça nous était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, dans le psaume 110, au verset 4. Ensuite, Dieu a déchiré le voile du temple, autre signe qui était la séparation, la barrière infranchissable interdisant aux hommes de s'approcher de Dieu. Et quant à l'arche de l'Alliance, eh bien, elle avait déjà définitivement disparu depuis longtemps. Pour finir, quelques dizaines d'années plus tard, le temple lui-même a été rasé. Tous les symboles qui avaient été créés dans l'Ancien Testament ont été supprimés. Tout ça parce que Dieu a décidé non pas d'être au milieu de nous, mais d'être en chacun de nous. Dieu a fait sa demeure dans chacun de ceux qui, par la foi, acceptent la libération du péché offerte par le sacrifice de Jésus. Et ça, ça nous est répété dans Romains 8, verset 9, 1 Corinthiens 3, verset 16, Éphésiens 3, verset 17, Colossiens 2, verset 19, 2 Timothée 1, verset 14. Des fois qu'on n'est pas compris la première fois. Tous les symboles de l'ancienne alliance étaient devenus inutiles parce que Dieu a décidé de vivre en chacun de nous. Le Christ est celui qui, en même temps, est devenu roi, sacrificateur, agneau et rédempteur. Plus de distance entre le Créateur et la créature. Il a fait de chacun de nous, des chrétiens, le temple où il veut habiter. Notre péché, qui était la barrière infranchissable, a été enlevé à la croix. Voici le but de Dieu, une proximité de chaque instant à ses enfants. Voici le but de Dieu, une proximité de chaque instant avec ses enfants. C'est en acceptant sa présence en nous, son droit de regard sur tous les aspects de notre vie, que nous jouirons de tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que la présence de Dieu en nous est comme un cheveu sur la soupe? Ou est-ce que la présence de Dieu en nous, nous la savourons? Est-ce qu'elle nous dérange? Ou est-ce que nous la recherchons? Jésus disait à la foule qui était venue le questionner sur Jean-Baptiste, « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamenté. » En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin, et qu'a-t-on dit? Il a un démon sur lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Matthieu 11, verset 17 à 19. Ce texte nous montre que Dieu veut être proche de l'homme, qu'il veut partager ses joies et ses deuils, ses fêtes comme ses peines, mais que l'homme refuse cette convivialité que Dieu lui propose. La question qu'on peut se poser, est-ce que ma vie est la même? Est-ce que mon comportement est le même? Est-ce que mes soucis, mes angoisses, mes questions sont les mêmes si je sais que Dieu est en moi? Est-ce que nous prenons par la foi cette affirmation de la parabole que j'ai mentionnée tout à l'heure, de Luc 15 « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Si Dieu est auprès de nous, toutes les demandes, tout ce que nous quémandons, comme j'ai dit tout à l'heure au début, ça a le même impact. Vous savez, quand vous faites une demande par écrit, que vous l'envoyez, ce n'est pas la même chose que quand vous avez quelqu'un en face de vous et que vous lui demandez. Si quand nous prions, nous sommes conscients de la présence de Dieu auprès de nous, Peut-être que nous ne demanderons pas les mêmes choses, déjà. Et peut-être que nous aurons un peu plus de foi d'être entendus. Dieu est présent vers nous, en nous. Et ça change tout. Si nous ne ressentons pas cette présence, si nous n'avons pas envie de danser quand Jésus joue de la flûte et quand nous ne sommes pas dans le deuil avec ses complaintes, s'il n'est pas présent vers nous, c'est à cause de quel obstacle ? Quel est l'obstacle dans ma vie qui m'empêche de jouir de cette proximité de Dieu ? Moi, je vous propose de nous incliner maintenant et de réfléchir aux obstacles éventuels qui m'empêchent de jouir de cette présence de Dieu avec moi, en moi, à chaque instant. Qu'est-ce qui m'empêche de croire par la foi que la volonté de Dieu, c'est mon bien, c'est peut-être mon salut, si ce n'est pas encore obtenu, c'est peut-être ma guérison, c'est peut-être une vie différente. Quel est l'obstacle qui m'empêche de parler à Dieu et de voir dans son regard la réponse qu'il me donne. Vous savez, quand on a quelqu'un en face et qu'on lui demande quelque chose, on sait tout de suite s'il va nous le donner ou pas. Nous devons pouvoir ressentir ça de Dieu. Alors, je ne dis pas que pour moi, c'est tout clair et que je vous demande de participer à mon éclaircissement. Non, je vous dis que moi-même, quelquefois, je me sens loin de Dieu. Et ce n'est pas normal. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité et permets-moi de jouir de ta présence à chaque instant, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les moments de deuil, de souffrance, dans les moments de joie, d'espérance. Vous voulez incliner vos têtes ? Seigneur Jésus, il y a des obstacles que je connais. Quelquefois, je sens les obstacles que je mets entre toi et moi. Quelquefois, je sens mon impatience, mes colères, mon orgueil et tout ce qui m'empêche de jouir de ta présence. Seigneur Jésus, tout cela, je veux le laisser, je veux l'abandonner. Je veux que tu remplisses mon cœur, Seigneur. Je veux que tu remplisses mon être tout entier. Et Seigneur, je voudrais tellement que mes frères et sœurs, comme moi, ce matin, en disant « Amen, Seigneur, enlève tous ces obstacles. Seigneur, que tu puisses te manifester au milieu de nous, par ta présence, par ton amour, par ta grâce, que tu puisses venir envahir les cœurs de chacun d'entre nous, et que tu puisses, Seigneur, nous faire revivre, vivre ce renouveau, Seigneur, que les mauvaises informations n'aient plus d'impact sur nous, que nous sachions, Seigneur, t'apporter les deuils, les souffrances, que nous puissions, Seigneur, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais de la même manière que toi. Pas d'une manière stérile, d'une manière efficace, d'une manière qui nous porte en avant. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi. Merci, Seigneur. Amen.